Chers amis, le pape Léon XIV, dans son encyclique Magnifique Humanité, a pointé du doigt deux logiques opposées. D'une part, la tentation de construire la tour de Babel en misant sur la puissance et l'orgueil. D'autre part, la patience de reconstruire Jérusalem, comme à l'époque de Néhémie, morceau par morceau, en préservant l'humain et le bien commun. Or, observant la dynamique mondiale, il constate clairement l'expansion d'une culture de la force, faite de polarisation et de violence. Il évoque ainsi ce qu'il appelle la Babel moderne, qui n'est pas seulement le paradigme technocratique mondialisé, mais aussi l'affrontement à distance entre des impérialismes opposés, entre des puissances qui veulent conserver leur suprématie, ou qui y aspirent. Cette culture de la force se marie avec un désir de contrôle, selon une dynamique déshumanisante qui semble aujourd'hui ne connaître aucune limite. Face à cette dérive qui tend à se généraliser, demeure cependant une grande partie de l'humanité qui cherche à rester humaine et à construire la cité de la coexistence et de la paix, autrement dit Jérusalem, puisque Jérusalem veut dire cité de paix, ou plus exactement fondation de la paix. Cette construction est évidemment plus lente, moins visible et moins spectaculaire. Comme on dit, le bien ne fait pas de bruit. Cela ne l'empêche pas de croître cependant. La civilisation de l'amour, en effet, se construit à l'image du grain de sénevé jeté en terre et qui, arrosé par les ondées célestes, croît et finit par donner son fruit. La logique du royaume que le Seigneur Jésus nous a enseignée est évidemment à l'opposé de la logique de ce monde. Et malheureusement, nous sommes parfois infestés par les valeurs de ce monde, et nous avons tendance à désespérer quand nous ne voyons pas le royaume de Dieu s'établir avec fracas et grande gloire. Nous le voudrions tellement, n'est-ce pas? Mais la croissance du royaume est une croissance à l'image de celui qui est doux et humble de cœur, Jésus. Le Seigneur, en effet, comme un bon jardinier, plante et sème patiemment les semences du royaume dans la terre de nos cœurs, dans le champ du monde. Il les arrose silencieusement de son amour, et viendra la croissance, puis la moisson, au jour de Dieu. Tout cela ne fait pas de bruit. La puissance, elle, fait du bruit. Mais la vie ne fait pas de bruit. Elle se déploie et s'offre à notre émerveillement et notre gratitude. Ces deux logiques, celle de Babel et celle de Jérusalem, nous les retrouvons d'une manière paroxystique lors du procès de Jésus devant le gouverneur romain de Judée, Ponce Pilate. Ce procès est bien plus qu'un simple épisode judiciaire. C'est une confrontation symbolique entre deux mondes, deux logiques de pouvoir, deux conceptions de la vérité. D'un côté, nous avons Pilate, qui incarne l'autorité politique, la force brute, la ruse du monde. Il est le représentant de la Rome impériale, mais cette Rome impériale est comme Babel ou Babylone, cette cité que l'on retrouve dans la Genèse et dans l'Apocalypse, car en hébreu c'est le même nom, la même réalité. Une cité de puissance, une cité orgueilleuse, qui se fonde plus sur la domination que sur la recherche de la vérité. De l'autre côté, nous avons Jésus, roi sans prétention mondaine, doux et humble de cœur, dont toute la puissance est la force invisible de l'amour qui se livre jusqu'à la mort. Cette opposition, déjà présente dans les évangiles, a été méditée par les pères de l'Église, qui ont vu une illustration de la victoire paradoxale du Christ, celle qui triomphe non par la force, mais par le silence et l'offrande de soi. Mais entrons plus avant dans la lecture de cette confrontation de puissance spirituelle entre Pilate et Jésus. Durant ses 3 années de ministère public, Jésus s'est présenté comme fils de Dieu. Il a parlé de Dieu comme de son Père, mais il s'est toujours dérobé devant la volonté et le désir de ses disciples de le faire roi. Vous vous souvenez de l'épisode au chapitre 6 de Saint Jean, où Jésus a opéré la multiplication des pains. Or, il nous est dit, à la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul. Le peuple juif, en effet, pensait, et pense toujours d'ailleurs, que le Messie qui allait venir serait un roi selon les critères de ce monde, un roi fort, dominateur, qui chasserait les Romains hors d'Israël par la puissance militaire et qui rendrait ainsi au peuple juif sa souveraineté et sa pleine liberté. Or, la royauté du Christ n'est pas de cet ordre. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas voulu se présenter sous ce vocable. Mais au moment de la confrontation avec Pilate, il va accepter le titre de roi, parce que justement, personne ne pourra le considérer comme un roi selon ce monde, dans l'état d'humiliation où il se trouve. Le règne que Jésus vient inaugurer n'a rien à voir en effet avec un pouvoir sur les hommes. Pilate, lui, pense avoir la puissance pour lui. Il exerce son pouvoir sur les autres. C'est bien ce qui apparaît quand les Juifs lui disent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, Jésus doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Pilate, entendant cette parole, est encore plus effrayé. Il entre dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donne pas de réponse. Pilate lui dit donc « Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répond alors « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus relativise ainsi le pouvoir temporel, montrant à Pilate que le pouvoir temporel est lui-même soumis au pouvoir de Dieu. Les hommes n'agissent que pour autant que Dieu le leur permet. Jésus rappelle donc cela à Pilate. C'est comme s'il lui disait « Tu te penses puissant, mais la vraie puissance est soumission à Dieu, obéissance à sa loi très sainte. Le roi sur la terre est toujours un serviteur, l'intendant de Dieu. » Nous avons vu aussi que Jésus a commencé par se taire, et cela a étonné Pilate. Saint Grégoire le Grand commente ainsi « Le Seigneur, qui aurait pu confondre ses accusateurs par sa parole, a choisi de se taire, car il savait que le silence est parfois plus éloquent que les discours. Par son silence, il a montré que la vérité n'a pas besoin de se défendre, elle se révèle par elle-même. » Oui, Jésus ne cherche pas à convaincre, ni par la force, ni par la rhétorique ou la propagande, mais par la douceur. Il ne répond pas à la violence par la violence, mais par une présence qui transforme les cœurs. Même devant Pilate, qui le méprise et le raille, il garde une dignité qui déroute, la dignité d'une royauté selon l'esprit. Dans l'échange qu'il a avec Pilate, où celui-ci lui demande finalement « Es-tu le roi des Juifs ?», Jésus répond en essayant de lui faire comprendre que sa royauté à lui n'a rien à voir avec celle d'un potentat de la terre. « Mon royaume n'est pas de ce monde, lui dit-il. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate, lui, dans ses paroles, n'a entendu que la reconnaissance de la part de Jésus qu'il était bien roi, et en conséquence il lui demande « Donc, tu es roi ?» Jésus répond « Tu le dis, je suis roi. » Jésus ne se dérobe plus ici, mais il donne la signification de cette royauté, puisque aussitôt après, il dit « Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » C'est étonnant. Jésus reconnaît qu'il est roi. Et aussitôt, c'est comme s'il en donnait l'explication en disant qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. On peut comprendre que Pilate ait été désarçonné. Quel lien, en effet, entre la royauté et le fait de rendre témoignage à la vérité? Apparemment, il n'y en a pas. Pilate est là devant un homme qu'il ne comprend pas. Un homme qui ne cherche pas à se défendre, qui ne déploie ni armée, ni discours de propagande, ni stratégie politique. Il est devant un homme qui se tait, qui écoute, et quand il parle, c'est pour révéler une autre forme de royauté. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Cette parole est un défi lancé à Pilate. Le pouvoir de Jésus n'est pas celui des légions romaines, mais celui de l'amour qui se donne sans réserve. Pour Pilate, la royauté, c'est la puissance. Ce sont les légions romaines. Pour Jésus, la royauté, c'est la fidélité à la vérité. C'est le fait de rendre témoignage à la vérité. Or, Jésus lui-même s'est présenté comme étant la voie, la vérité et la vie. Il est roi en tant qu'il rend témoignage au Père, en tant qu'il rend témoignage à l'amour du Père pour ses enfants. Il est roi en tant qu'il va donner sa vie pour le salut d'une multitude. Il est roi en tant qu'il est le Rédempteur. Son pouvoir est celui de l'amour qui se donne sans réserve. C'est donc le contraire même d'une culture de la domination de la puissance temporelle. Jésus voudrait que Pilate ouvre son cœur à cette réalité supérieure. Et c'est pourquoi il lui dit, comme une invitation, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comment réagit Pilate à cette invitation? Eh bien, il dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs, nous dit saint Jean. Saint Jean Chrysostome commente ainsi ce passage. Pilate interroge Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais il ne reste pas pour écouter la réponse, puisque aussitôt il part. Il cherche la vérité comme on cherche un objet perdu, sans avoir la patience de l'accueillir. Oui, Pilate est l'homme pressé, qui veut des réponses immédiates, mais qui fuit dès qu'elles le dérangent. Il préfère le compromis à la justice, la lâcheté à la vérité, et ce faisant, il manifeste qu'il n'est qu'un faible, un tigre de papier. Comment pourrait-il avoir pouvoir sur les autres alors qu'il n'a pas pouvoir sur lui-même? Où est sa force alors qu'il va s'incliner devant la pression des Juifs qui réclament la mort de Jésus, la mort de l'innocent? Car Pilate sait bien que Jésus est innocent. Il le reconnaît comme tel, puisque dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 15, il est écrit « Pilate se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. » Et dans l'Évangile selon saint Jean, quand Pilate se présente devant les Juifs, il leur dit « Je ne trouve en lui, Jésus, aucun motif de condamnation. » Voyez la différence de comportement. Jésus n'a pas tremblé devant la perspective de la mort. Jésus n'a pas renié la vérité pour sauver sa peau. Jésus est donc le plus fort. Mais Pilate, lui, se met à trembler devant les Juifs. Il n'a pas le courage de trancher selon la justice. Il louvoie. Il essaye de contourner leur demande en proposant de relâcher Jésus plutôt que Barabbas. Mais rien n'y fait. La foule, excitée par les grands prêtres et les anciens, vocifère de plus belle. « Crucifie-le, crucifie-le !» Et ce qui va emporter la décision de Pilate, et donc son acte de lâcheté, c'est la menace et le chantage. Puisque les chefs des Juifs lui disent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Les chefs des Juifs veulent faire pression sur Ponce Pilate, afin qu'il condamne Jésus à mort. Autrement dit, ils menacent Pilate de l'accuser de trahison auprès de l'empereur. Car si Pilate libère Jésus, qui est présenté comme un prétendant au titre de roi des Juifs, cela pourrait être interprété comme une remise en cause de l'autorité de l'empereur. Pilate a compris que Jésus ne revendiquait pas une royauté temporelle. Mais devant la menace, il prend peur et il sacrifie la justice et donc le juste. Pilate n'est pas fidèle à la vérité, contrairement à Jésus. Il ne rend pas témoignage à la vérité puisqu'il condamne Jésus qu'il sait innocent, par peur des réactions du peuple et par calcul politique. Saint Augustin commente ainsi son attitude. Pilate avait peur de perdre son pouvoir temporel, et c'est pourquoi il a livré un innocent à la mort. Mais, en agissant ainsi, il a perdu bien plus. Il a perdu la possibilité de reconnaître la vérité. Pilate incarne l'homme qui cherche à contrôler les événements, mais qui, en réalité, est prisonnier de ses propres peurs et de la pression des foules. Il n'est pas vraiment libre, alors même qu'il croit exercer le pouvoir sur les autres. Il représente la puissance terrestre, toujours précaire, toujours menacée par l'instabilité des rapports de force. Face à ce pouvoir temporel qui se croit fort mais qui est fragile, Jésus, lui, se présente comme un homme libre. Libre de parler, libre de se taire. Fidèle à la vérité même au prix de sa vie. Fidèle à son Père. Il incarne cette puissance de l'amour qui se tait, se livre et qui sauve le monde entier. Saint Augustin ajoute « Pilate a posé une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Mais c'est cette couronne qui est devenue la vraie royauté. Il a cloué le Christ sur la croix, mais c'est par la croix que le Christ a vaincu le monde. » La victoire de Jésus n'est donc pas celle d'un conquérant, mais celle d'un agneau immolé. Sa puissance est dans l'offrande de soi, dans le pardon accordé à ses bourreaux, dans la résurrection qui triomphe de la mort. Sa Pâque est bien une victoire, mais une victoire paradoxale. Son silence parle plus fort que les armes. Sa mort nous affranchit de nos véritables ennemis, le péché, la mort éternelle et Satan. Pilate est mort, mais Jésus est vivant pour l'éternité. Le procès de Jésus devant Pilate est à la fois une confrontation de puissance et une inversion des valeurs humaines. Ce que le monde considère comme une faiblesse, la douceur, le silence, l'humilité, devient la source d'une puissance infinie. Saint Augustin voit dans cette scène une préfiguration de la victoire du christianisme. « Les empires tombent, dit-il, les armées se dispersent, mais la parole de celui qui s'est tu devant Pilate continue de résonner à travers les siècles. » Peut-être que cela vous fait penser à l'épisode en 1935 où Pierre Laval, le ministre français des Affaires étrangères, était venu demander à Staline de sceller une alliance qui engloberait aussi le Royaume-Uni, l'Italie et le Vatican, c'est-à-dire l'Église. Il lui suggérait ainsi de cesser ses persécutions contre les chrétiens afin de se réconcilier avec le pape Pie XI. La réponse de Staline, cinglante et ironique, ne lui laissa aucun espoir. Le pape, combien de divisions ? Staline savait parfaitement que pour toute armée, le Vatican ne disposait que d'une centaine de gardes suisses armés de halbardes. Cette réponse de Staline traduisait clairement sa conception de la politique et de la diplomatie, un rapport de force brutal et sans état d'âme. Et le rapport de force n'était clairement pas en faveur du Vatican. Seulement, il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Ce n'est pas la logique de la domination par la force qui aura le dernier mot. Staline est mort. L'URSS s'est effondrée. Mais le pape vicaire du Christ et l'Église épouse du Christ demeurent. La devise des Chartreux nous rappelle cette vérité éternelle. La croix demeure tandis que le monde tourne. Pilate croit avoir le dernier mot en condamnant Jésus à la croix. Mais c'est précisément par cette croix que le Christ sauve l'humanité. Sa royauté n'est pas de ce monde, mais elle est éternelle. Comme l'écrit saint Paul, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. » En conclusion, on pourrait dire qu'il y a là deux logiques qui s'affrontent, deux victoires qui s'opposent. Le face-à-face entre Jésus et Pilate n'est pas seulement un épisode historique, mais une allégorie de la lutte entre deux conceptions de l'existence. D'un côté, le pouvoir qui s'accroche à ses privilèges, qui craint la vérité, qui se débat dans l'illusion de la maîtrise. De l'autre, l'amour qui se livre sans résistance, qui transforme la souffrance en victoire, qui triomphe par le silence et la douceur. Les pères de l'Église y voient un appel à choisir. Soit le monde de Pilate, où la puissance se mesure en armée et en intrigue, soit le monde de Jésus, où la vraie force est dans l'humilité et l'offrande de soi. Comme l'écrit saint Jean Climaque, le Christ n'a pas vaincu Pilate par la force, mais par la patience. Et c'est ainsi que nous devons vaincre le mal, non par la colère, mais par l'amour. Le pape Léon XIV, dans son encyclique Magnifique Humanité, évoque ces deux logiques comme celle de Babel et de Jérusalem. D'un côté, le culte de la domination par la force, et de l'autre côté, la civilisation de l'amour. Et le pape lui aussi nous invite à choisir. Et c'est un choix qui demande du courage, car il n'est jamais facile de suivre le Christ dans son chemin d'abaissement, d'humilité et d'amour jusqu'à l'extrême. Nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit pour ne pas trahir le bien-aimé Jésus, pour ne pas trahir la vérité, ni déserter le chemin exigeant de l'amour, pour ne pas vouloir suivre le chemin large et spacieux de ce monde, chemin qui ne conduit pas vers la vie en plénitude, mais vers la perdition. En définitive, la victoire de Jésus n'est pas une victoire de ce monde, mais une victoire sur ce monde. Elle nous rappelle que la puissance véritable ne réside pas dans les trônes ou les couronnes, mais dans le cœur de celui qui aime jusqu'à donner sa vie. Et puis, cette confrontation entre Pilate et Jésus nous éclaire sur l'humanité. Qu'est-ce qu'une humanité réussie ? Qu'est-ce qu'une magnifique humanité, pour reprendre les termes du pape Léon XIV dans son encyclique ? Où l'a trouvée cette magnifique humanité ? Eh bien, dans le Verbe incarné. Le Concile Vatican II, dans sa constitution Gaudium et Spes, au numéro 22, notait « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Image du Dieu invisible, le Christ est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine, altérée dès le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Autrement dit, c'est dans le Christ, le Fils bien-aimé du Père, que nous découvrons la splendeur de ce à quoi nous sommes appelés. C'est en lui, le Verbe incarné, que nous découvrons la magnifique humanité voulue par Dieu de toute éternité. Une humanité appelée à l'amour et au don de soi. Une humanité appelée à rendre témoignage à la vérité. Une humanité faite pour la communion avec Dieu. D'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, la parole de Pilate présentant à la foule le Christ flagellé et couronné d'épines participe de cette révélation. « Voici l'homme, dit-il. » C'est-à-dire l'homme par excellence, l'homme absolument saint qui donne sa vie pour le salut d'une multitude, l'homme dont le cœur débordant d'amour va jusqu'à livrer sa vie pour donner joie au Père de la rédemption de tous ses enfants. Et c'est pourquoi le pape Léon XIV, dans la conclusion de son encyclique, nous dit « J'invite à contempler dans le visage du Fils, Jésus donc, une magnifique humanité. » L'humiliation et la défiguration du Fils de Dieu est finalement sa plus grande gloire, parce qu'elle nous dévoile quelque chose du mystère de son cœur aimant, miséricordieux et compatissant envers nous. Elle nous dévoile le mystère de la tendresse du Père. Ce paradoxe d'une magnifique humanité qui se dévoile dans la faiblesse, la Vierge Marie en a compris le mystère. Et ce mystère, elle l'a célébré dans son Magnificat, véritable chant de l'espérance chrétienne. Dans la conclusion de son encyclique, le pape Léon XIV évoque ce regard de foi de Marie, qui sait discerner l'œuvre invisible de Dieu par-delà tout ce qui semble contrarier son espérance, par-delà l'apparente victoire des Hérodes et des Pilates de son temps. Devant Élisabeth qui lui annonce qu'elle est devenue la mère du Seigneur, Marie laisse éclater un hymne de louange et de joie, nous dit le pape. Son âme magnifie le Seigneur et son esprit exulte en Dieu son Sauveur, car il a choisi pour son dessein de salut une jeune fille pauvre et humble. Soudain, Marie voit toute l'histoire à travers le prisme de cette découverte. Rien n'a changé autour d'elle. La situation sociopolitique de son époque reste la même, avec les Romains qui dominent sa terre et son peuple divisé et humilié. Et pourtant, tout a changé en elle, ce qui lui permet de voir l'invisible. Dieu a déjà déployé la puissance de son bras. Il a déjà dispersé les superbes, renversé les puissants, élevé les humbles, comblé de biens ceux qui ont faim et renvoyé les riches les mains vides. Il a déjà secouru Israël, son serviteur. Dieu se range du côté des derniers. Il possède un projet qui est souvent caché sous l'apparence terne des événements humains, qui voit triompher les superbes, les puissants et les riches. Et pourtant, sa force secrète est destinée à se révéler à la fin. Eh bien, que la Vierge Marie nous apprenne à entrer dans son regard de foi, qui va au-delà des apparences, dans son espérance de la victoire plénière de Dieu sur tous les Hérodes et les Pilates de tous les temps, et dans sa louange prophétique pleine de gratitude. Oui, Jésus nous l'a promis, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Que votre cœur donc cesse de se troubler. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez.